Il est 17h à Saint-Pétersbourg, 15h à Paris, 14h en temps universel. Le journal Olivier Charman, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Les discussions ont commencé en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis. Une proposition ukrainienne de cessez-le-feu partiel avec la Russie est à l'étude. Ces négociations se déroulent quelques heures après une attaque massive de drones visant notamment la région de Moscou. En Syrie, les craintes des minorités après la vague de violence qui a fait plus de 1000 morts dans la communauté alaouite dans l'ouest du pays. Reportage à suivre à Damas de Mohamed Erami. Une prise d'otage au Pakistan, au moins 450 personnes, des passagers d'un train entre les mains de séparatistes dans le sud-ouest du pays. Enfin, en football, en Liverpool PSG ce soir, ce sera l'affiche des huitièmes de finale. Retour de la Ligue des Champions, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Ukrainiens et Américains sont donc réunis à Jeddah en Arabie Saoudite. Il s'agit de la première rencontre de haut niveau depuis la visite désastreuse de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche fin février. Les deux parties doivent notamment évoquer la question d'une trêve partielle entre Kiev et Moscou dans les airs et en mer. Et au début de la rencontre, le négociateur ukrainien et chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, a pointé un esprit constructif.
No more than Ukrainians want a peace.
Les Ukrainiens veulent la paix plus que quiconque. Et l'Ukraine est prête à atteindre cet objectif parce que c'est ce que veut vraiment le peuple ukrainien. Après plus de 3 ans d'invasion à grande échelle de la Russie et malheureusement environ 11 ans après le début de l'agression contre notre pays, bien sûr, nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à la paix. Bien sûr, les garanties de sécurité sont très importantes car nous voulons que cette agression ne se reproduise plus jamais à l'avenir. Bien sûr, c'est très important, mais maintenant, nous pensons qu'il est nécessaire de discuter du plus important, comment entamer ce processus. Et nous sommes très ouverts et nous voulons avoir des conversations très constructives, profondes et amicales avec nos partenaires américains.
Le négociateur ukrainien et chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak. Sur le terrain, aucun signe de désescalade avant ces négociations. La Russie dit avoir repris à l'armée ukrainienne une dizaine de localités et plus de 100 km² de sa région frontalière de Koursk. Quant aux forces ukrainiennes, elles ont lancé une attaque record de drones contre la Russie, en particulier dans la région de Moscou. En Syrie, la commission mandatée par la présidence syrienne pour enquêter sur les violences meurtrières dans l'ouest du pays est déterminée à garantir la justice, à faire prévaloir l'état de droit, à protéger les droits et libertés de ses citoyens, à empêcher les représailles extrajudiciaires et enfin à garantir l'absence d'impunité. Déclaration du porte-parole de cette commission. Les violences ont causé la mort de plus de 1000 personnes, dont une très grande majorité de civils. Ces violences contre les Alaouites dans les villes de la côte syrienne ont suscité des craintes parmi les minorités syriennes quant à la possibilité qu'elles soient confrontées à des actes similaires à l'avenir, surtout si la situation sécuritaire du pays se détériore. Reportage Mohamed Erami à Damas.
Les préoccupations des minorités, selon Yahya Chakrak, un chrétien dans la trentaine, proviennent du fait que le nouveau pouvoir semble pencher vers un durcissement religieux et de leur passé, où certains ont combattu au sein des groupes terroristes tels que l'État islamique, Al-Qaïda et le Front al-Nusra.
Pourquoi tous ces meurtres et cette lutte? En réalité, nous n'avons pas compris la raison de ce qui s'est passé. Les combattants du gouvernement doivent être rationnels et préserver la vie des minorités, ainsi que la vie de leurs enfants et leurs biens, car le sectarisme ne profitera à personne.
La protection des minorités et leur inclusion dans le gouvernement est, selon l'expert politique Samir Taqi, essentielle pour que le nouveau système syrien obtienne une reconnaissance internationale, car les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, exigent que le régime acquiert d'abord une légitimité interne avant d'obtenir une légitimité internationale.
Le message de l'Occident était clair et lié à la question interne de la Syrie. L'accent a été mis sur la légitimité interne plus que sur la légitimité externe. La légitimité interne signifie clairement que la nouvelle administration doit inclure toutes les composantes du peuple syrien et les gérer de manière appropriée.
Les musulmans sunnites représentent 74% de la population syrienne, tandis que le reste de la population est réparti entre les musulmans alaouites, les druzes, les kurdes et les chrétiens. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Une importante prise d'otage au Pakistan. Des séparatistes retiennent plus de 450 passagers d'un train au Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays, dans une zone très montagneuse. L'attaque est revendiquée par l'armée de libération du Baloutchistan, le principal groupe séparatiste de cette région frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan. La prise d'otage est toujours en cours. Aux Philippines, l'ancien président Rodrigo Duterte a été arrêté ce matin à l'aéroport de Manille avec sa femme et une de ses filles. À peine sorti de son avion en provenance de Hong Kong, il a été placé en détention. Son arrestation s'inscrit dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Elle le soupçonne de crimes contre l'humanité après des années d'enquête sur la guerre contre la drogue qu'il a menée dans le pays. L'ancien président, lui, dénonce une procédure frauduleuse. Rodrigo Duterte est déjà reparti dans un avion puisqu'il vient d'en prendre un pour La Haye. Les relations entre le Canada et les États-Unis toujours aussi tendues. Cette fois, c'est le Premier ministre de l'Ontario qui monte au créneau. Hier, Doug Ford a annoncé la mise en place d'une surtaxe sur les exportations d'électricité vers trois États américains. Donald Trump est furieux. Sur son réseau social Truth Social, le président américain accuse le Canada d'abuser des droits de douane. C'est donc un nouvel épisode dans la guerre commerciale que se livrent les deux voisins, Marine de la Moissonnière.
1,5 million d'entreprises et de foyers américains sont concernés par cette hausse de 25% des droits de douane sur l'électricité que l'Ontario fournit à l'État de New York, au Michigan et au Minnesota. Cela va rapporter environ 280 000 dollars à la province canadienne. Et le Premier ministre a prévenu, il pourrait aller encore plus loin en coupant tout simplement le courant aux États-Unis. Gros coup de pression donc, car Doug Ford veut obliger Donald Trump à abandonner une bonne fois pour toutes son idée d'augmenter les droits de douane. Depuis le début, le Premier ministre de la province la plus riche du Canada a choisi la manière forte face au président américain dont il était pourtant un partisan initialement. Doug Ford a déchiré le contrat de près de 100 millions de dollars signé avec l'entreprise d'Elon Musk Starlink. Il a aussi retiré l'alcool américain des magasins d'État et a banni les entreprises américaines des appels d'offres publics, une multitude d'offensives qui lui ont valu le surnom de Captain Canada et lui ont permis de décrocher fin février, un troisième mandat d'affilée.
Le désengagement des États-Unis contraint l'ONU à arrêter des projets humanitaires. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme annonce avoir reçu 5 avis d'abandon de ces projets de la part du gouvernement américain. Certains d'entre eux, notamment un programme d'aide aux victimes de la torture en Irak, est terminé faute de financement. Une collision spectaculaire entre un cargo et un pétrolier en mer du Nord, au large des côtes anglaises, qui a provoqué un important incendie et le rejet de kérosène. Une trentaine de personnes ont été secourues. Un membre d'équipage est toujours porté disparu, mais désormais présumé mort. Les raisons de l'incident restent à déterminer. L'incendie est toujours en cours et les risques de catastrophe écologique ne sont pas exclus. En France, suite et fin aujourd'hui du procès d'une enseignante de français accusée d'avoir harcelé plusieurs élèves, dont une qui s'était donné la mort en 2019. Eva L., collégienne de 11 ans, dont les parents ont expliqué hier à la barre les humiliations répétées que lui faisait subir sa professeure. L'enseignante n'est pas poursuivie pour homicide involontaire. Elle a bénéficié d'un non-lieu sur ce point, mais pour harcèlement moral. Elle n'a pas exprimé de compassion à l'égard des victimes, ce qui n'étonne pas la mère d'Eva L. au micro de Baptiste Coulon.
C'est une personne non empathique et qui ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. La réponse quand on lui pose la question « Est-ce que vous avez de l'empathie ?» parce que c'était l'expertise psychiatrique qui a remonté le fait qu'elle ne montrait aucune empathie. Sa réponse c'est « Oui, je suis pas une personne à pleurer devant les gens. » Bon, bah, ça s'appelle pas de l'empathie ça. L'empathie c'est être capable de ressentir ce que la personne en face ressent. Bon, c'est à son habitude, c'est ce qu'on dit dans les différents témoignages. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, en tant que parents d'élèves, on essaye de la confronter à quelque chose, elle a ce discours un peu fuyant. Elle répond, mais elle répond pas vraiment à la question. Et enfin voilà, sauf que là, bah, c'est compliqué parce que bah, c'est des avocats, c'est une présidente, et eux, ils reviennent à la question. Non, pas de surprise. Je m'attendais bien et je suis même assez contente qu'elle soit fidèle à elle-même pour montrer comment elle est.
La mère d'Eva L., la jeune fille qui s'est suicidée, au micro de Baptiste Coulon. Enfin, football, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions avec plusieurs affiches au programme ce soir et notamment Liverpool-PSG. Le PSG qui s'est incliné 1-0 à domicile. Un match à suivre avec Cédric De Oliveira en direct et en intégralité sur RFI ce soir à partir de 19h40 en temps universel. Tout de suite, autour de la question.